Je passerai maintenant la parole à Simon Harel.
Félicitations à toutes et à tous pour ce centre que McGill a bien fait de créer grâce à l'initiative de plusieurs personnes qui se reconnaîtront. Et très heureux d'y être aujourd'hui, j'espère y être.
L'invitation est donnée.
Hein, parce que je crois que c'est une initiative brillante. Et puis, je crois que la persévérance des acteurs qui ont rendu possible cet événement est un gage de succès. Alors, je voudrais reprendre ici la créativité urbaine en question, le cas de Montréal, ville créative. Évidemment, vous le savez tous, vous avez mis des guillemets. Et vous permettrez non pas d'être polémique, mais de revenir sur ce lieu commun de la créativité urbaine. Toutes les villes sont créatives. Les villes s'entretuent à vouloir être créatives. Le cas de Montréal est particulièrement intéressant. Je vais parler de Montréal à partir de l'horizon qui est le mien, qui est celui d'un littéraire. Alors, que fait un littéraire? Il étudie les récits. Il étudie des récits qui peuvent être des récits scripturaires, des livres, des romans, de la prose, des poèmes, mais aussi les récits picturaux du muralisme urbain, des récits audiovisuels. Et donc, disons que mon point de départ, si l'on parle d'une méthodologie de la recherche dont je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elle sera dans quelques années, mais ce que je souhaiterais qu'elle soit du moins pour moi et quelques autres, c'est qu'il y ait dans l'étude des réalités urbaines, notamment celle de Montréal, mais bien sûr d'autres villes, un intérêt manifeste à l'égard du rôle des récits. C'est-à-dire les récits non pas simplement institutionnels, parce que ceux-là, on les connaît, ce sont les récits prescriptifs et normatifs des gouvernements, des instances publiques, des mairies, mais de voir comment les récits des gens d'en bas, ce que Roxane Rimstad appelle « culture from below », c'est un travail qu'elle a mené de façon préfiguratrice depuis bien des années. Comment cette culture d'en bas, qui est spatialisée, je dirais, au sens où l'entendait Bakhtine, dans ce bas corporel abjecté de la ville, nous permet de renouer avec une compréhension d'une créativité qui ne relève pas d'un nouveau fonctionnalisme urbain ou d'un organicisme urbain tel qu'il a pu être mis en œuvre à l'époque par l'école de Chicago. Alors, ce qui m'intéresse dans Montréal, c'est finalement que c'est une ville qui ne fonctionne pas. C'est le contraire de ce que disait Jane Jacobs. Ça ne marche pas. Et c'est intéressant parce que ça ne marche pas. On sous-estime à quel point, je dirais, la culture montréalaise est fondée sur des illégitimités, sur des conflits qui sont civiques, hein, qui sont civils, bien sûr, comme on en a en ce moment, je dirais, plus qu'on ne voudra en avoir, mais c'est l'histoire de Montréal. Je veux dire, ça a été la FLQ en 70, il y a eu deux référendums, et certains voudraient que Montréal soit en quelque sorte expurgé d'un malin génie qui ferait en sorte que cette ville pourrait enfin marcher. Elle marche justement parce qu'elle se construit à partir de zones de tension. Ce sont ces zones de tension qui font les cultures montréalaises. Et c'est de cette dimension des zones de tension qui existent à Montréal et qui ne font pas de Montréal, par contre, un Belfast ou un Beyrouth, mais ce sont ces zones de tension qui font en sorte que les cultures montréalaises échappent à ce branding de la créativité, me semble-t-il. Et je dirais qu'il y a de l'avenir, non pas dans le conflit comme opposition sectaire, mais comme mise en jeu d'un élément universalisant qui est celui, non pas du dialogue parfois un peu écuménique de l'altérité, de l'identité, mais comme mise sous tension. Et Montréal, me semble-t-il, est une ville mise sous tension, ce qu'on ne dit pas assez. On présente de manière systématique Montréal comme la ville de la joie de vivre. Je dirais la ville laid back. Ce qui est Montréal aussi, à certains égards, mais ce n'est pas tout Montréal. Et Montréal est un univers urbain de petite taille, hein, si l'on compare à d'autres métropoles ou mégapoles, où justement le principe des tensions, Le principe de l'intensité culturelle et de l'intensité urbaine joue de manière très, très nette comme tension qui est perçue comme un processus. En ce sens-là, je dirais que l'intérêt de Montréal, c'est de n'avoir aucun pouvoir politique. Robert Guiscali le disait, dont on n'entend plus parler du tout, mais il disait « Montréal n'a aucun pouvoir politique ». Montréal s'internationalise de plus en plus. N'a pour ainsi dire pas vraiment de pouvoir économique à l'échelle internationale, là, si on est sérieux, là, à l'échelle des grands décideurs économiques. Mais en même temps, Montréal se positionne de manière très originale, me semble-t-il, dans le domaine des services tertiaires avancés. C'est, à mon avis, une ville traductologique. C'est une ville qui le sera encore plus demain. C'est une ville qui est traductrice de contenu culturel. On le voit, par exemple, avec l'essor extraordinaire des jeux vidéo, qui, en l'espace, à peine 15 ans, est devenu un cluster, une grappe industrielle importante. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans cette habileté plus qu'un habitus, qui consiste à faire intervenir cette translation et cette traduction culturelle, qui, à mon sens, est un élément fort de Montréal. Simon Brault, qui est le responsable de Culture Montréal et qui est aussi le directeur de l'École nationale de théâtre du Canada, disait de Montréal qu'elle n'a pour lui qu'un objectif, qu'elle ne devrait avoir qu'un objectif, c'est celui d'être la plus grande ville alternative d'Amérique du Nord. Ce qui est un autre cliché. Parce que est-ce que c'est Detroit à l'époque des MC5? Est-ce que c'est Ed Ashbury à l'époque de San Francisco? Est-ce que c'est Oakland et les Black Panthers? Est-ce que c'est une nostalgie, bien sûr, c'est une nostalgie doucereuse. Mais en même temps, l'idée qui consiste avec des acteurs économiques et culturels importants comme le Cirque du Soleil, comme la SAT, il y en a beaucoup à Montréal, hein, on les sous-estime peut-être, mais il y a des acteurs culturels importants, il y a des acteurs universitaires qui sont très, très importants. Montréal est une très grande ville universitaire. Il y a là quelque chose d'intéressant qui consiste à travailler l'alternatif, non pas sous la forme d'un discours, je dirais, un peu retardataire et nostalgique, mais comme quelque chose qui amène constamment la ville à se dépasser, c'est-à-dire à expérimenter la somme des possibles qu'elle est. Et comme Montréal est une ville qui est aussi la métropole du Québec, qu'elle est une ville de littérature, puisque j'ai étudié la littérature, et de plusieurs littératures qui voient le jour au Québec, elle me semble un lieu intéressant. Je vais revenir très brièvement sur un ouvrage que je vais faire paraître dans 2 semaines, qui a pour titre « Méditation sur la place Émilie Gamelin », simplement pour dire qu'il y a des conflits majeurs en ce moment qui voient le jour à Montréal. Vous en connaissez bien sûr certains. Il y en a d'autres, c'est que dans cette définition de la créativité, il y a un aspect élitaire, bien sûr. Je ne dis pas vous, je ne dis pas moi, mais il y a une dimension élitaire, c'est-à-dire la République des niveaux hipsters qui définissent ce que sera le quartier des spectacles, qui par ailleurs est une réalisation tout à fait intéressante. Et il y a la place Émilie Gamelin qu'on a au nom d'un hygiénisme sanitaire, j'oserais dire même de manière un peu plus dure, au nom d'un cosmopolitisme montréalais sanitaire qu'on a arasé dans la mesure où ces populations itinérantes nous dérange profondément. Donc, il y a donc cette définition. Qu'est-ce que la culture urbaine? Est-elle créative? Si elle est créative, pour qui? Là, il faut parler de classe sociale. Il faut parler de dénivellation économique et de dénivellation culturelle. Il y a, bien sûr, à Montréal, quelque chose qui est particulièrement exacerbé. On est fort dans ce domaine. Je dirais c'est l'habitus de l'hyperfestif. Au sens où Philip Murray en a parlé. Et d'une certaine manière, je dirais, il faudra un jour, et on le fait, je pense, le centre et ça représentent cette volonté de sortir de cette logique de l'hyperfestif comme fin de l'histoire et d'envisager de quelle manière ces tensions et ces densités montréalaises font intervenir non pas simplement la festivité comme forme bénigne de la culture ou le bohémianisme comme forme bénigne de la culture comme forme de dilettantisme, mais de voir comment Montréal est à la fois une ville créative, certes, mais une ville de points de rupture, constamment, de zones de tension et de points de rupture. Et on le voit en ce moment avec la Charte des valeurs, hein. J'allais dire que j'en parlerai pas, mais on le voit sur toutes sortes de sujets, mais tout le temps. C'est ça qu'il faut voir. C'est toujours présent. Sous l'apparente civilité que nous présentons à nos augustes visiteurs, et sur le fait qu'on ne se tire pas dessus, c'est quand même un avantage réel. Il y a constamment ces zones de tension qui constituent aussi l'agora, qui constituent le cœur de la cité et qui nous obligent, et c'est probablement peut-être, si on avait un point de vue messianique, ce qui correspond à l'esprit du Québec et à certains égards de Montréal, on pourrait se dire, mais peut-être que Montréal peut être une de ces villes qui remet en question cette idéologie de l'hyperfestivité, qui remet en question ce discours qui fait jouer, par exemple, tel Gilbert Rozon à Montréal, la notion de créativité, ou Richard Florida à Toronto et ailleurs, le fameux index ou indice créatif, évidemment, qui pour moi est une supercherie absolue. Donc, pour moi, Montréal est une ville de fabulation, est une ville d'imagination. Ario Napadura, il parlait de Mediascapes, il parlait bon, d'un certain nombre de panoramas culturels. Montréal est une ville de panoramas ou d'horizons imaginatifs. Et l'enjeu, me semble-t-il, est d'en arriver à créer une ville, parce que je crois qu'à Montréal, on est dans une logique qui est constamment présente de création et de recréation de la ville. De voir de quelle manière cette création, donc, je vais conclure là-dessus, peut échapper, je dirais, à un aspect engoncé et à un aspect utilitaire. En ce sens, moi, le Montréal que j'aime, c'est celui de Corridor, avec Melvin Charney en 1976, au moment des Jeux olympiques de 1976. Le Montréal que j'aime, c'est celui de l'ATSA, l'action terroriste socialement acceptable. C'est ce Montréal qui m'intéresse. C'est le Montréal de l'économie sociale de Schlager-Maisonneuve. C'est le Montréal aussi, un peu interlope, mais qui m'intéresse. C'est le Cirque du Soleil qui achète le siège social d'Alcan. Quand même, il faut l'acheter, hein. Mais pour faire quoi? Et c'est, pour moi, c'est intéressant. Tout comme l'aménagement du siège social du Cirque du Soleil dans le quartier Saint-Michel est une réussite. Donc, il y a là, à mon avis, des raisons non pas d'espérer, mais des raisons de discuter à partir d'enjeux qui sont ceux de la place de la culture et qui impliquent, et je crois que Montréal permet de faire cela, et il y a d'autres choses que Montréal ne permet pas, mais Montréal prend toujours au sérieux la culture, me semble-t-il. Voilà.
Merci, Simon.